Arcus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Épisode 29, Appropriationnisme, partie 2, Contrefaçon. C'est quoi la contrefaçon ? Dans notre premier épisode sur l'appropriationnisme, nous avons pu constater que Helene Sturtevant prenait les formes et couleurs d'autres artistes et les répliquait pour en faire son œuvre. Ce n'est pas ça la contrefaçon ? Même si Sturtevant a obtenu un accord tacite de certains artistes, notamment d'Andy Warhol avec sa célèbre réponse « Demandez à Helene » lorsqu'on lui posait des questions sur sa technique, ça a été loin d'être le cas pour beaucoup d'autres. Certains, comme Joseph Beuys, se sont même vexés en se voyant dépouillés des formes de leurs œuvres. Alors, pourquoi le travail de Sturtevant n'est pas de la contrefaçon ? Nous avons dû arrêter le premier épisode de cette série lorsque la question de la définition de contrefaçon a été abordée. Pourtant, elle est centrale, non seulement pour les questions liées à l'appropriationnisme, mais aussi parce que cette notion semble être le cœur de la régulation juridique du droit de la propriété artistique et littéraire. Étant donné l'ampleur, la complexité et la diversité des cas où la contrefaçon joue un rôle, notre exploration ne sera qu'un premier aperçu lointain afin de clarifier cette prémisse. Explorons donc cette notion à partir du traitement qui a été fait par Marc-Olivier Deblanc devant notre micro le 10 mai 2023, lorsqu'il nous parlait de l'appropriationnisme. Nous l'avons vu, Sturtevant prenait forme, taille, couleur, volume, l'ensemble formel d'œuvres d'autres artistes pour les répliquer et présenter ses propres œuvres. Du vol, pourrait-on crier.
Le vol, en droit pénal, est qualifié par le code pénal de l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui. Ben évidemment, elle est frauduleuse parce que si elle est autorisée, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'élément moral, c'est qu'il y a un accord entre les parties et donc ce n'est pas du vol. Si je prête ma voiture à un ami, ce n'est pas du vol. Si ma voiture disparaît dans la nuit et que quelqu'un a pris le volant, c'est du vol puisque je ne l'ai pas autorisé. Donc, le code pénal définit le vol très précisément comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est-à-dire, j'ai soustrait à quelqu'un une chose qui lui appartenait de manière frauduleuse pour en faire un usage qui fait que lui-même n'en aura pas d'usage. Et on voit que le vol est organisé pénalement autour de la notion tangible de bien corporel qui fait que la chose que j'avais en ma possession m'échappe parce que frauduleusement il y a eu une organisation délictuelle ou délictueuse pour que je ne puisse plus en avoir l'usage et donc je peux le poursuivre pénalement pour du vol. Et on sait qu'il y a un équivalent du vol sur les biens incorporels, c'est-à-dire les fameux droits de propriété intellectuelle dont je parle, c'est la contrefaçon.
Contrefaçon, mais on entend d'autres termes comme plagiat, faux, copie, imitation.
La contrefaçon, on la confond souvent avec le plagiat, avec la piraterie, avec diverses notions qui ne sont pas des notions juridiques, même parfois avec la copie. Mais il faut faire attention, la copie, ce n'est pas une notion, on dit « ah tiens, il a copié ». Mais ce n'est pas une notion frauduleuse, la copie. Donc la contrefaçon, c'est très simplement la reproduction ou la représentation non autorisée d'une œuvre de l'esprit. C'est très simple, c'est les articles 122.4 et L335.2 du Code de la propriété intellectuelle qui définissent cette contrefaçon comme un vol de propriété intellectuelle, pour parler des choses très clairement. Et ensuite, on a vu qu'une autre notion commençait à apparaître, puisqu'il y avait ce qu'on a appelé, ce que des auteurs ont appelé la contrefaçon astucieuse. Alors qu'est-ce que c'est la contrefaçon astucieuse ? La contrefaçon pure, c'est très simple. Je prends une œuvre et je l'utilise sans autorisation. J'ai une musique des Beatles, je la synchronise sur un film, sur une scène en particulier, sans demander l'autorisation des ayants droit des Beatles. C'est de la contrefaçon. J'ai utilisé l'œuvre sans l'autorisation. J'écris un livre et je mets en couverture de ce livre une œuvre de Damien Hirst ou de Richard Prince. Je ne demande pas l'autorisation. C'est de la contrefaçon. Alors, c'est la contrefaçon des droits d'exploitation, c'est-à-dire du droit de reproduction notamment, mais c'est aussi ce qu'on appelle de la contrefaçon de droit moral. Je ne mentionne pas, au titre du droit à la paternité et du droit au nom, le fait que l'œuvre est une œuvre de Damien Hirst, de Richard Prince, de Francis Bacon, etc., etc. Donc, ça, c'est la contrefaçon de niveau basique, telle qu'elle est fixée par le droit d'auteur depuis la naissance du droit d'auteur.
Nous avons donc déjà un point de différence important dans le travail de Stuart Event et de ses successeurs, les dénommés artistes appropriationnistes. En effet, Stuart Event ne cache pas l'auteur de l'œuvre, au contraire, elle le mentionne bien, et le nom de l'artiste répliqué fait partie intégrante de l'œuvre. Mais cela ne suffit pas à échapper à toutes les situations couvertes par le droit entaché de contrefaçon.
Et ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de plus subtil qu'on appelle encore une fois la contrefaçon astucieuse, qui est le parasitisme artistique. Alors, le parasitisme artistique, j'avais écrit il y a quelques années dans la Revue internationale de droit d'auteur un article sur la question, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'art des créations à la manière de. Je vais faire une peinture à la manière de Dali. Je vais faire une peinture à la manière de Léonard de Vinci, je vais faire une peinture à la manière de Picasso.
Nous vous conseillons également la lecture de l'article paru dans la lettre de la Chambre commerciale, financière et économique numéro 13, juillet 2024, axé sur cette thématique du parasitisme. Malgré le fait de placer la jurisprudence du point de vue du parasitisme économique, il nous paraît intéressant pour éclairer cette notion. Mais comme le signale la Cour de cassation, dans les cas de parasitisme économique, le plaignant doit prouver une valeur économique pour prétendre une protection des biens qui ne font pas ou plus l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Quelles seraient donc les subtilités dans le cas de l'art ?
Alors, il n'y a pas d'ambiguïté si, et je vais y revenir quand on va aborder l'histoire de l'art, si je revendique l'hommage, si j'affiche la volonté de cette révérence. Et j'appelle ça, moi, la révérence référence à l'artiste dont je restructure, je réfléchis l'œuvre et j'enrichis mon œuvre avec des œuvres préexistantes qui sont des œuvres iconiques de l'histoire de l'art et, en quelques mots, je réinterprète. Le parasitisme artistique, c'est, au sens du droit civil, une faute. C'est-à-dire que mon intention est une intention qui est une intention qui est de porter atteinte, ce qu'on appelle l'intention de nuire, pour réutiliser à vil prix, sans faire l'effort créatif, le travail d'un créateur préexistant, pour faire des économies sur la recherche, le développement en matière de brevets, par exemple, ou sur le travail créatif. Alors, je vais essayer de m'expliquer. J'ai défini le parasitisme artistique dans cet article à la RIDA en 2017, qui est la reprise de mauvaise foi ou intentionnelle des éléments consubstantiels et pérennes d'une œuvre dans l'intention de créer la confusion dans l'esprit du public. Alors, je vais dire les choses plus simplement. C'est, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça ressemble à Andy Warhol. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça ressemble à Roy Lichtenstein. Et donc, dans cet inconscient collectif de l'histoire de l'art, dont peu de gens ont en réalité une connaissance pointue, on va jouer sur ce fond commun esthétique en disant que tout appartient à tout le monde, que tout puisse être réutilisé et que peu importe, au fond, le travail et l'apport créatif de l'artiste. Or, le parasitisme artistique, il vient dans cette zone, qui est cette zone où on ne peut pas dire qu'il y a une reproduction d'une œuvre à proprement parler, mais qui fait que l'œuvre est reconnaissable.
cet entre-deux n'est pas propre au travail de Sturtevant et aux appropriationnistes. Au contraire, l'une des caractéristiques de l'artiste et le mouvement qui a suivi ses pas est de radicaliser cet acte en questionnant de cette façon les valeurs dominantes dans le monde artistique à un tel niveau de se trouver particulièrement protégé par le droit. Quelques exemples pour avoir une image plus élargie sur cette question.
Vous avez des exemples par dizaines et par dizaines. Alors, il va y avoir des exemples où on va, parce que les œuvres sont dans le domaine public, reprendre des œuvres pour communiquer autour de marques. Vous avez le logo de Manpower qui a été pendant des années l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Vous avez les yaourts Danone dont la publicité était basée sur la laitière de Vermeer. Donc tout ça, c'est disponible puisque c'est dans le domaine public. Mais il y a eu aussi des publicités pour Kaufmann & Broad, le promoteur immobilier, où on reprenait l'ensemble des éléments consubstantiels esthétiques reconnaissables attribuables à Roy Lichtenstein, qui pouvaient laisser penser que, en réalité, la publicité avait été faite par Roy Lichtenstein.
Un exemple récent est le litige qui oppose une marque de vêtements et l'artiste Julien Charrière, représenté par Maître Olivier Deblanc, dans cette affaire. Vous pouvez trouver sa position concernant ce cas dans le prochain épisode où nous vous partagerons la totalité de son intervention. À partir du cas Charrière, Maître Deblanc schématise la stratégie de défense récurrente dans les cas de parasitisme.
La réponse double ou triple, d'un point de vue purement de stratégie judiciaire, elle va être en trois temps. Petit 1, votre œuvre n'est pas originale. Or, l'originalité est la condition essentielle à la protection par le droit d'auteur. Petit 2, il y a des antériorités. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'art, j'ai retrouvé des choses qui ressemblaient ou qui étaient identiques aux droits que vous revendiquez. Donc, il y a une dilution du droit d'auteur, voire une disparition, puisque la condition d'originalité disparaît par l'antériorité. Si l'œuvre est antériorisée, mon travail n'est pas original, puisqu'il n'est pas marqué par l'empreinte de la personnalité de l'artiste ou de l'auteur, puisque précisément, ça a déjà existé, et pour être très précis, préexisté. Et le troisième point qu'on oppose, c'est de dire, mais attendez, ce que vous protégez, ce n'est pas une œuvre, c'est une idée et un concept. Et les idées et les concepts ne sont pas protégeables. Je vous donne un exemple. Et ça va nous permettre de faire la transition sur l'appropriation dans l'histoire du droit et dans l'histoire de l'art. Il y a un principe qui dit que les mouvements artistiques ne sont pas protégeables. Et que même les techniques artistiques ne sont pas protégeables. Pourquoi ? Parce que, comme disait Malraux, l'art se nourrit de l'art. Et que le principe de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur étant un monopole, il risque de bloquer ce qu'on appellerait en technologie ou en technique. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, Jacques Ellul, qui parle beaucoup de ça dans le système technicien, qui bloque ce qu'on appelle le progrès. Or, il y a un progrès des techniques comme il y a un progrès de l'art. Et comme l'intérêt supérieur d'une civilisation et de la cité, c'est ce progrès, c'est porter vers au plus haut la capacité de l'homme de progresser justement, c'est-à-dire d'évoluer. Or, l'art est une des formes de cette évolution. Et si, par exemple, prenons une hypothèse très simple, on dit que le cubisme est protégeable et que Picasso et Braque, puisqu'ils ont inventé le cubisme, que Picasso et Braque sont les propriétaires du cubisme et qu'on pouvait dans l'absolu déposer un brevet ou un droit de propriété intellectuelle ou disposer d'un monopole sur le cubisme, ils auraient pu lire pendant 70 ans sur le terrain du droit d'auteur ou pendant 25 ans sur le terrain du brevet, ben moi j'interdis à quiconque de faire du cubisme. Alors, outre d'un point de vue artistique la difficulté de déterminer ce qui ressort du cubisme, du proto-cubisme ou du cubisme synthétique et de toutes les modalités du cubisme, se posait une autre question, c'est que en créant ce monopole, on empêche l'apparition de l'abstraction. Parce que si je simplifie à l'extrême, sans cubisme, peut-être pas de suprématisme, sans suprématisme, peut-être pas de minimalisme, sans minimalisme, peut-être pas d'art conceptuel, etc., etc., etc. Donc l'histoire de l'art qui se propose au monde comme une forme d'algorithme, d'évolution des modes formels d'expression créative se trouverait bloqué par le droit d'auteur. Alors ça aussi, c'est un paradoxe. C'est que le droit d'auteur vient protéger les artistes, mais aussi dispose de systèmes qui permettent de libéraliser, de diffuser librement l'art pour que chacun se nourrisse de l'autre et que l'art, c'est une expression absolue de la liberté et quand bien même le droit d'auteur essaye de trouver un dispositif qui soit un entre-deux. Il est basé sur un droit de propriété qui est, sans reprendre les fameuses phrases de Proudhon, j'aime beaucoup parce qu'il y a une phrase, bon, on connaît tous la phrase de Proudhon qui dit « la propriété, c'est du vol », et il y a une phrase de Fernando Pessoa qui dit « la propriété, ce n'est pas du vol, ce n'est rien ». Et j'aime beaucoup cette notion-là, mais la propriété intellectuelle, ça reste un droit de propriété, c'est-à-dire un droit qui empêche et un droit qui interdit. Donc, on a ce dispositif de la contrefaçon qui est l'exercice du droit de propriété. On a des zones d'entre-deux qui sont le parasitisme et on doit naviguer entre ça, notamment dans l'histoire de l'art.
Voilà donc une perspective sur la question de la contrefaçon et son voisin, le parasitisme artistique, en ayant en vue la question de l'appropriationnisme.
Hello papi, Mickey Bazar. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré.
Dans cette dernière partie, intervient la question du conflit de valeurs, très présente dans les questions juridiques, opposant notamment la protection du travail de l'artiste et sa propriété sur le produit qui en résulte, et de l'autre côté, l'idée de progrès social.
Mais comment ça, le monde est type, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais, je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire, d'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja.
Ni contrefaçon, ni parasitisme donc pour Sturtevant et les appropriationnistes. En effet, comme le dit Nathalie Hennich dans un texte sur l'authenticité, l'originalité est une valeur qui fait consensus depuis un certain temps, mais ce consensus, construit, peut être soumis à des épreuves par les artistes afin de prolonger, élargir, modifier ou abolir sa légitimité. L'art est un terrain où la socialisation des valeurs permet la représentation de leur action. Selon Hennich, donc, et nous trouvons cela assez juste, les appropriationnistes cherchent par ce geste, à la limite de la contrefaçon, la transgression de l'impératif d'originalité sans s'exclure du monde de l'art contemporain. Dans le troisième épisode, dernier de cette mini-série sur l'appropriationnisme, nous vous offrirons une émission spéciale d'une heure contenant la totalité de la présentation de Maître de Blanc. D'une certaine façon, l'art au parloir s'approprie des propos d'un expert de la thématique. C'était l'art au parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labyrintho, réalisé par Léobardo Arango et Léa Delon. Encore t'en as baby, tu d'être ça. Encore t'en as baby. Encore t'en as baby, tu d'être ça.
gata. En katana baby. Oh, tja. Oh.